En cette émission, je vous l'ai dit, nous allons parler de la situation au Sénégal. En effet, cette semaine, la rue sénégalaise a eu raison en quelques heures d'une réforme constitutionnelle perçue par beaucoup comme une monarchisation du pouvoir au profit du président Wade, 85 ans au pouvoir depuis 2000, et de son fils Karim Wade, âgé de 42 ans. La société civile sénégalaise a fait preuve de grande maturité et a ouvert la voie au reste du continent, l'épicentre des violences de la Peanut Revolution, révolution des cacahuètes, comme l'ont déjà surnommé certains commentateurs, s'est logé dans le quartier pourtant ultra sécurisé du plateau, en plein centre-ville, qui abrite le palais présidentiel, l'Assemblée nationale, les ministères, mais aussi les grandes banques et les missions diplomatiques, dont celle de la France. Ce soulèvement populaire a confirmé la puissance et la maturité de la société civile sénégalaise, dont la figure de proue, Monsieur Alioune Tiné, le patron de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, a été blessé lors des affrontements. Le Sénégal en Afrique, quoi qu'on dise, est aujourd'hui un des très rares pays africains à n'avoir jamais connu de coup d'État depuis son indépendance en 1960. Il n'a jamais été dirigé par un militaire, à l'inverse de tous ses voisins, Mauritanie, Mali, Guinée-Bissau et Gambie, j'en passe. Il a été l'un des premiers à faire l'expérience du multipartisme, même si le nombre de partis était toutefois limité. À son indépendance, c'est un poète président, Léopold Sédar Senghor, qui a pris en main les destinées de ce pays. Il a été l'un des rares leaders africains à quitter le pouvoir en 1980 sans attendre une défaite électorale ou un putsch. Son successeur Abdou Diouf, plus effacé, a amené la pirogue Sénégal à bon port malgré des vents contraires et une conjoncture économique défavorable, avant de laisser le pouvoir au terme d'une alternance historique en 2000 à un Abdoulaye Wade qui accède alors au pouvoir suprême en 74 ans, l'âge où de nombreux chefs d'État prennent leur retraite. Il faut dire que le Sénégal, les Sénégalais ont au fil des années acquis un bien que personne, aucun dirigeant civil ou militaire ne pourra jamais leur enlever, la liberté de s'exprimer comme ils l'entendent. Ils sont maîtres de leur histoire. Il y a une presse écrite libre, il y a des radios et télévisions privées qui s'expriment sans entrave, des sites internet à la langue bien pendue. Cette liberté d'expression qui s'est encore accrue sous le régime Wade vaut tous les pétrodollars d'autres pays. C'est la véritable richesse du Sénégal et de son peuple. Ses dirigeants ne pourront plus l'ignorer à l'avenir. Il gouverne un peuple de citoyens et non un troupeau de moutons, comme c'est d'habitude le cas en Afrique francophone. Dans sa version initiale, le texte qui a mis le feu aux poudres visait à modifier la constitution pour permettre aux Sénégalais d'élire simultanément, dès 2012, un président et un vice-président sur la base d'un ticket qui pouvait ne recueillir au premier tour que 25% des suffrages exprimés. Ce minimum de voix pour une victoire au premier tour était parmi les dispositions les plus décriées par les opposants au projet. Jeudi matin, donc, vous le savez, le ministre Sy a annoncé que M. Wade avait décidé d'abandonner cette disposition pour conserver dans le projet la majorité absolue de 50% plus une voix comme minimum pour la victoire au premier tour. Pour ses détracteurs, à travers cette initiative, M. Abdoulaye Wade, arrivé au pouvoir en 2000, je l'ai dit, attendait se réélire avec peu de voix pour ensuite céder le fauteuil à son fils et super ministre Karim Wade, âgé de 42 ans. Ça aussi, je vous l'ai dit. Alors, dans le cadre de cette émission, nous allons recevoir monsieur Albert Bourgi, qui est enseignant de droit public à l'Université de Reims. Il est expert en politique africaine. Il a publié beaucoup d'articles et beaucoup d'ouvrages sur l'Afrique. Et comme vous le savez, Albert Bourgi est le frère de Robert Bourgi. Suivez mon regard, Robert Bourgi, qui est le Monsieur Afrique. Mais tout de suite, dans le cadre de cette émission, nous recevons Monsieur Sanou Mbaye, qui est consultant indépendant, qui est ancien haut fonctionnaire à la Banque d'Afrique de Développement. Il a publié un ouvrage, L'Afrique au secours de l'Afrique, en 2009 aux éditions de l'Atelier, qui est un éditeur résident à Paris, en France. Alors, bonjour, monsieur Sanou Mbaye.
Bonjour.
Merci, Monsieur Sanoumbaye, une fois de plus, d'intervenir sur les ondes de Sans Détour. Nous avons assisté cette semaine à tout ce qui s'est passé au Sénégal. Nous regardons de très près l'actualité africaine et nous sommes avec vous en ce dimanche dans le cadre de cette émission pour essayer de comprendre comment on a pu en arriver là. Alors, je vous pose une question directement, sans détour. Aujourd'hui, est-ce que l'issue de ce qui s'est passé au Sénégal vous satisfait eu égard à la décision de M. Abdoulaye Wade de revenir sur ce projet?
Mais la route s'est soulevée. Vous savez que justement, compte tenu de ce que vous avez dit précédemment dans l'introduction de votre émission, le peuple sénégalais est connu pour sa maturité politique, sa liberté d'expression. Alors, on ne savait plus parce qu'après les dérives de Wade qui a abusé, qui est venu au pouvoir, donc sous l'égide de la démocratie. Dès qu'il est venu au pouvoir, il a commencé à abuser de ce pouvoir. Il a été réélu et il n'y avait rien. Alors que le monde se soulevait un peu partout, en Afrique du Nord, un peu partout, les Sénégalais ne se soulevaient pas. Mm-hmm. Et puis, Wade a dépassé une certaine ligne rouge, une ligne qu'il ne devait pas dépasser, qui était faite de deux composantes. Il y a la composante internationale, Wade. On sait que les rebelles de Benghazi, là, les rebelles de Libye, n'ont été reconnus par son gouvernement africain. L'Afrique avait une voix commune à travers l'Union africaine. Alors, à partir de là, les Occidentaux qui avaient cru embarquer la Ligue arabe avec eux se sont rendus compte que les Arabes étaient réfractaires. Ils ont trouvé leur Africain de service. Alors, Wade est allé à Benghazi, après passage à Paris. À Paris, il en a profité pour monter son cinéma. Il a fait faire une photographie avec Obama, entre Obama et son fils dont il a l'ambition de se faire succéder. Et de là-bas, il est parti à Benghazi. Il est parti pour non seulement reconnaître le gouvernement, les rebelles là-bas, mais dites que c'est lui, il fait ce qui convient de faire, parce que les autres États africains, lui ne doit rien à Kadhafi, ce qui impliquerait que les autres chefs d'État africains impliquaient Kadhafi. Donc on était très mal à l'aise par rapport à cette image qui projetait de notre pays et de notre peuple. Deuxième chose, dans la foulée, il arrive et il dit c'est un amendement de la Constitution. Je vous rappelle que cette Constitution a été amendée plus de 10 fois. En l'espace de 10 ans. Mmh. Alors, il s'est armé de ses ciseaux, et chaque fois que ça correspondait à ses intérêts ou à son désir d'avoir un pouvoir absolu, il modifiait la Constitution, et les Sénégalais laissaient faire, jusqu'à cette dernière modification. Mmh. Non seulement il a voulu instituer un poste de vice-président, où est-ce que vous avez vu un État avec un régime présidentiel et un régime parlementaire? Parce qu'il voulait un président, un vice-président et un premier ministre. C'était gros, gros, gros comme une montagne. Il voulait élire un vice-président, mais ce vice-président qui devait être élu par suffrage universel, il pouvait le liquider quand il voulait, et s'il le liquidait, c'était lui qui avait le pouvoir d'en nommer un. Mais c'était visible, quoi. Il a voulu, dans un premier temps, se faire élire. Et alors, il a fixé le minimum à 25%, c'est-à-dire, dans toute l'histoire des votes, on n'a jamais vu un président en exercice contrôlant les régions, contrôlant les préfets, les gouverneurs, l'appareil, qui n'ait pas eu moins de 25%. Mm-hmm. Alors, il comptait sur ça pour éliminer le deuxième tour. C'est là où les Sénégalais se sont révoltés. Et là, il y a eu quelque chose de remarquable. En l'espace de journée, on a retiré l'amendement, il n'y a pas eu de prisonniers, il n'y a pas eu de morts. Hein, les policiers, les appareils sécuritaires s'est comporté d'une manière extrêmement responsable. Alors, c'est remarquable comme résultat. C'est vraiment remarquable. Et ça permet aux Sénégalais, de nouveau, de pouvoir lever la tête, quoi.
Oui, tout à fait. Nous avons suivi cela de près et ce que vous dites est tout à fait louable. Nous avons remarqué que les hommes en tenue, les policiers, les militaires, etc., se sont comportés de façon responsable. Vous l'avez dit. Alors maintenant, la décision a été prise par Monsieur Abdoulaye Wade de revenir sur ce projet qui posait quelque peu des problèmes à sa population. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait ou alors vous restez prudent?
Non, parce que pouvoir de politique, faire de la politique, c'est synonyme de faire de la ruse, de faire des magouilles. Tout le monde craint qu'il a été éjecté par la porte, il va revenir par la fenêtre. S'il avait eu la sagesse d'avoir une bonne lecture de ce qui s'est passé, hein, de se défaire de son arrogance, de son côté vraiment imbu de lui-même, croyant qu'il est... Il est plus intelligent que tout le monde et se comportant en monarque absolu. S'il pouvait se défaire de ces oripeaux-là pour avoir une lecture correcte, et ce qu'il ferait, d'abord, il a été désavoué. Il a dit en Libye, en disant à Kadhafi, je te regarde devant les dents, les yeux, si mon peuple s'était soulevé, j'aurais démissionné. Mais il n'a qu'à démissionner. Ou s'il ne démissionne pas, au moins qu'il essaie de laisser à l'histoire l'image de chef d'État qui a compris son peuple et qui a aidé à organiser des élections libres et transparentes à celui qui sera désigné par le peuple d'être élu. Mais Wad, de par son comportement, d'ailleurs, ça vous montre quelle est sa conception de la démocratie. Hein? Un amendement introduit à l'Assemblée, le peuple se soulève et puis il retire cet amendement. Et qu'est-ce que c'est que cette Assemblée-là? Qu'est-ce que c'est que cette forme de démocratie? Hein? Des parlements qui passent, qui reçoivent des instructions et puis qui exécutent, quoi. Alors, donc, s'il avait une bonne lecture, il organiserait les élections transparentes, passerait le pouvoir et laisserait. Mais il y a beaucoup de choses qui s'opposent à ça. D'abord, la personnalité du bonhomme. Mm-hmm. Deuxièmement, son parti va imploser. Il y aura pas un cadre, s'il y a un candidat, il y aura pas, s'il y a des candidats du PDS, il y en aura plutôt plusieurs. Hein? Mm-hmm. Et troisièmement, il a fait tellement de malversations, il a tellement abusé lui et les membres de son clan, particulièrement son fils, qui dirige 4 à 5 ministères, c'est-à-dire ne dirige absolument rien. Hein? Ils ont tellement abusé qu'ils ont peur de la justice populaire parce que un membre éminent de son parti a dit ici, si on perd les pouvoirs, nous allons tous aller en prison.
Voilà, et c'est d'où le ça, d'où justement ma prochaine question. Est-ce que vous avez foi aujourd'hui aux élections président, aux élections qui devraient normalement se tenir en 2012 au Sénégal, eu égard exactement à ce que vous décrivez là, un président qui est de plus en plus inconfortable si jamais il perdait son siège vu ce qui peut s'abattre sur lui comme justice et comme procès. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il peut organiser les élections? Est-ce que vous avez foi aux élections prochaines au Sénégal?
Mais Wade d'abord est incapable d'organiser quoi que ce soit. C'est un être brouillon. Son destin a été de venir à la tête de ce pays. Il a été élu par défaut. Parce que les gens, les Sénégalais en 2000 voulaient un changement, bien que dès le premier tour, il était arrivé bien derrière Abdou Diouf. Abdou Diouf n'a perdu que parce que justement lui-même, il avait vu la division s'installer dans son parti. Mm-hmm. Niass était parti former son parti, Djiboka était parti former son parti. Donc, il vient et puis il faut tordre le cou. Et là, les élections, c'est tellement mal préparé parce que il y a des arrondissements, des communes qu'il a redessinées. Hein? Et on bloque l'émission de carte d'identité particulièrement pour les jeunes qui vont voter pour la première fois. Hein? Et sans cette carte d'identité, ils ne peuvent pas avoir de bulletin électoral. Mm-hmm. Donc, les choses à la fois... c'est chaotique, mais à la fois la perspective aussi s'éclaircit. Parce que déjà, pour s'opposer à un candidat unique du parti, donc lui probablement, mais ça, même l'opposition ne pourra plus l'accepter, parce qu'il n'est pas, la constitution ne lui permet pas de chercher un troisième mandat. Il dit que le premier mandat ne comptait pas, mais même ça, on ne peut plus lui accorder ça. Donc, potentiellement, il voulait se présenter, l'opposition essaie d'avoir un candidat unique. Vous savez ce qui se passe en Afrique, les égaux. Donc c'était assez difficile. Maintenant, avec le parti de Wade qui va imploser, mais ça permettra au niveau de l'opposition de passer le premier tour comme un primaire. Qui est beaucoup de candidats, on n'a plus du tout peur de la fragmentation des candidats qui favoriserait l'équipe au pouvoir, parce que ces gens-là, je vous dis, ils se distinguent par leur incompétence, leur corruption, hein, et leur aspect chaotique.
Alors, donc, monsieur Sanou Mbaye, une dernière question. Comment est-ce que vous voyez les prochains mois aujourd'hui au Sénégal, les consultations électorales? Comment est-ce que vous lisez tout cela? Vous nous avez, on a très bien compris, hein, votre réticence à voir Monsieur Abdoulaye Wade organiser cela. Nous avons très bien compris votre vigilance par rapport à ce personnage qui, quand même, il faut le reconnaître, hein, tient aujourd'hui les rênes du pays Sénégal. Alors, les prochains mois, nous savons quels sont les enjeux. Comment est-ce que vous lisez cela? D'après vous, qu'est-ce qui va se passer?
Moi, je pense que l'opposition a raison de lui dire déjà maintenant d'annoncer publiquement, hein, qu'il ne briguera pas un troisième mandat parce qu'il n'y a pas droit. Hein? Mm-hmm. Et chaque fois, on lui a donné un ultimatum. Chaque fois qu'il s'il n'obéit pas, la rue retrouve les manifestations reprendront. Mm-hmm. On lui a demandé d'arrêter le découpage anarchique, archaïque, hein, des circonscriptions pour favoriser son parti. Mm-hmm. Et chaque fois qu'il agira comme il a essayé d'agir en changeant la constitution, les gens viendront dans la rue. Maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est que la maturité démontrée par les forces publiques et puis par l'opposition persiste. La faiblesse des autres soulèvements qui ont eu lieu en Afrique du Nord, c'est que des jeunes se sont soulevés spontanément, il n'y avait pas eu de direction politique. Tandis que là, l'opposition a pris la direction politique, donc il n'y a pas ce vide-là. Mm-hmm. Donc, espérons simplement qu'il y aura continuité, qu'il n'y aura pas de sang, qu'il n'y aura pas de débordement, parce qu'il faut condamner aussi les exactions, hein, aller brûler les maisons des gens et tout ça, ça c'est pas acceptable non plus, quoi. Donc, maintenir ça, mais va partir, le Sénégal a l'occasion de démontrer de nouveau sa maturité politique, on va élire quelqu'un, quelles que soient les conditions, ce seront jamais des conditions idéales, hein, parce que ça a été préparé, il ne reste que 6 mois, mm-hmm. Mais un candidat émergera, qui viendra, et il y a une telle fragmentation des candidatures que j'espère que ça donnera lieu à un gouvernement d'union nationale, parce qu'il y a des ténors, et la crise a révélé une chose, c'est que le débat s'est extrêmement élevé maintenant. Partout à la télévision, à la radio, franchement, on redécouvre des gens brillants, hein, des analyses brillantes, donc rien n'est perdu, hein. Il y a eu 10 ans d'abus, 12 ans d'abus, et puis les élections se passeront normalement, et puis ce sera l'exception qui aussi contribuera dans cette Afrique. Au sud du Sahara, parce qu'on le voit partout, au Burkina Faso, il y a Compaoré qui a des intentions de changer la constitution, au Cameroun, il y a Paul Biya qui veut se représenter, mm-hmm. En Ouganda, quand les gens se sont soulevés là, on les a menacés. Donc, si le Sénégal vraiment arrive à donner l'exemple d'un changement pacifique, comme en 2000, hein, mm-hmm. Et qu'on évacue ce monsieur-là, et puis qu'on applique les règles de droit, et puis que ce soit ce qu'on lui repose, si c'est avéré, ben, alors on verra où la loi nous conduira. Mais vraiment, il doit y avoir un exemple, et cet exemple doit rejaillir sur toute la partie subsaharienne, parce que vraiment, on vit une autre époque.
Merci.
Et cette culture-là, elle se manifeste partout en Afrique, sauf dans les pays francophones.
Merci beaucoup, Monsieur Sanou Mbaye. Merci infiniment de nous avoir accordé de votre temps en ce dimanche. Vous êtes Monsieur Sanou Mbaye, consultant indépendant, ancien haut fonctionnaire à la Banque africaine de développement. Vous avez sorti un ouvrage qui a été un plein succès, l'Afrique au secours de l'Afrique, en 2009, et qui a été publié par les éditions L'Atelier à Paris, en France. Merci infiniment.
Merci.
Alors, après cette interview de Monsieur Sanou Mbaye, nous allons devoir recevoir par le truchement de notre collègue et ami Monsieur Christian Moussampa, Monsieur Albert Bourgi, qui est enseignant de droit public à l'Université de Reims. Il est expert en politique africaine. Il a publié beaucoup d'ouvrages sur l'Afrique. Il est le frère, je l'ai dit au début de cette émission, de Monsieur Robert Bourgi. Vous savez qui c'est, le monsieur de la France-Afrique. Alors, il était l'invité de Monsieur Christian Moussampa. C'est une interview qui a été réalisée exceptionnellement pour Sans Détour hier. Alors, on écoute.
Oui, allô, bonsoir, monsieur Albert Bourgi. Oui, bonsoir.
Voilà, donc vous êtes Albert Bourgi, professeur donc de droit public à l'université de Rennes. Vous êtes aussi spécialiste des relations internationales, particulièrement sur l'Afrique que vous connaissez très bien. Vous êtes d'ailleurs natif de Dakar. Alors, bienvenue, professeur, sur les ondes de Cameroun Voice. Encore une fois, merci de nous permettre de comprendre un petit peu la situation au Sénégal.
Merci de m'avoir appelé et de me faire parler. Voilà.
Voilà. Alors, tout le plaisir est pour nous. Professeur, on aura l'occasion donc de nous entretenir avec vous, avec deux de mes confrères. Guy Epassi à ma gauche et Didier Otoibi.
Très bien. Bonjour, professeur.
Bonjour. Content de vous entendre.
Merci.
Voilà, donc, professeur Bourgi, on va commencer tout de suite, si vous le permettez. Le président Ouad s'est construit une réputation de bâtisseur. À son actif, il y a beaucoup de travaux d'infrastructures. Mais en même temps, on l'accuse d'être le fossoyeur des institutions. Alors, dans quelle mesure la récente contestation face à la modification constitutionnelle qu'il a tenté de mettre en œuvre, avec le fameux ticket projet président, vice-président, dans quelle mesure cette contestation confirme cette accusation?
C'est dans la mesure où cette contestation, je dirais, a abouti à faire retirer un texte qu'on peut qualifier en droit, franchement, de scélérat, parce qu'il ne repose absolument sur rien. Vous savez, un texte aussi important qu'une loi constitutionnelle, de révision une révision constitutionnelle sous la forme d'une intervention, bien sûr, du Parlement, est censé être bâti sur un socle qui est celui qui est incarné, en tout cas, par les valeurs et les principes qui commandent la vie politique sénégalaise, ou la vie politique tout simplement d'un État. Or, en l'espèce, il s'agissait, pardonnez-moi l'expression, d'un bric-à-brac constitutionnel dont la seule finalité était de non seulement d'assurer son élection, mais d'assurer également l'élection d'un vice-président et par la suite de préparer sans doute le terrain à son fils, puisque le vice-président élu avec le président peut, lorsque le premier, le président, ne peut plus exercer ses prérogatives, soit par décès, soit par incapacité physique, eh bien c'est le vice-président qui devient président, qui à son tour peut simplement se contenter de nommer un vice-président sans passer, bien évidemment, par le suffrage universel. Donc vous voyez un peu de quoi il s'agissait. Et c'est un poteau rose qui a été très vite découvert par les Sénégalais. Et lorsque vous dites, c'est vrai qu'il a une réputation de bâtisseur, et en l'espèce, en tout cas sur le plan légal, sur le plan des institutions, on peut dire sincèrement, et vous l'avez dit vous-même, qu'il s'est révélé être un fossoyeur. Vous
savez,
constitution, n'importe quelle constitution, dit du président de la République, du chef de l'État, qu'il est le gardien des institutions et qu'il est d'une certaine manière le garant du bon fonctionnement de ces institutions. Or, en l'espèce, en tout cas cette révision constitutionnelle était destinée à chambarder complètement le dispositif institutionnel sénégalais.
Professeur Bourgi.
Oui, une question. Allô, de Didier Otoibi, professeur.
Oui, professeur Bourgi, je suis Didier Otto. Je voudrais vous poser une question sur l'article 6 du texte querellé. Le texte querellé, l'article 6, en son article 6, précisait qu'un ticket présidentiel est déclaré élu s'il vient en tête de l'élection et réunit au moins le quart de suffrage exprimé. C'est ainsi qu'est apparue la notion de quart bloquant. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez éclairer nos auditeurs sur la notion de quart bloquant?
La notion de quart bloquant, de quart bloquant des suffrages exprimés, pas du corps électoral.
Oui.
Ça signifiait que celui qui arrivait en tête avec 25%, enfin le ticket qui arrivait en tête était automatiquement élu. C'est-à-dire le quart, 25% des suffrages exprimés. Alors vous le savez très bien qu'il y a de l'abstention, il y a donc un nombre d'inscrits qui est beaucoup plus important que le nombre de suffrages exprimés. Ça signifie qu'au fond, si on faisait le compte, non seulement 25% des suffrages exprimés suffisaient à faire élire dès le premier tour, c'était ça le ticket présidentiel, mais en réalité c'est 25% des suffrages exprimés équivalaient ou pouvaient être tout simplement l'équivalent, je sais pas, on peut dire de 15 à 20% du corps électoral. Alors vous imaginez aisément l'espèce de fossé qui existe, bien sûr, à travers ce qu'on appelle le verdict du suffrage universel et cette réalité absolument bizarroïde qui était inscrite dans le projet de révision de la Constitution.
Très bien.
Et alors, je vais plus loin pour encore être plus précis, pour que nos auditeurs comprennent
cette notion, oui.
Ce fameux bric-à-brac, ce fameux carte bloquant, des suffrages exprimés. Ailleurs, vous savez, il y a un certain nombre de nos pays africains qui ont instauré l'unique tour, vous le savez comme moi, c'est-à-dire on est élu dès l'instant où on arrive en tête au premier tour.
Le Togo, le Gabon...
En général, ceux qui ont été élus sous cette forme l'ont été avec un petit peu plus de 30, 35, 40%. C'est-à-dire que non seulement on instaurait quand même un système qui est inique, le premier tour, le tour unique est absolument inique, je dis bien, inacceptable au regard bien évidemment de la loi des lois du suffrage universel, mais en l'espèce, dans le cas du Sénégal, c'était bien au-dessous de ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire 25%, on est immédiatement élu, on n'est pas simplement en tête avec tant, mais on a 25% et ces 25% représentent généralement au grand maximum 15 à 20% du corps électoral. Alors vous voyez un petit peu sur quoi reposer, vous pouvez reposer ou aller reposer cette fameuse légitimité dont se réclame sans arrêt le président Ouad.
Un recul. Une question, Monsieur Bourgi, de Guy Epassi.
Bonjour, Monsieur Bourgi. Oui. Donc oui. Moi, je vais poser une question aussi sur ce car bloquant. J'aimerais que vous expliquiez plus en profondeur. Imaginons que les deux premiers candidats arrivent successivement avec, je prends un exemple, 30% des suffrages exprimés et 29% des suffrages exprimés. Est-ce qu'on retombe dans une élection à majorité relative où celui qui arrive à 30% est automatiquement élu
ou bien... C'est celui qui est devant. Dès que ça dépasse, si vous voulez, c'est le seuil de 25%.
Il faut dépasser le seuil de 25%.
Il faut dépasser le seuil de 25%. S'il y en a deux qui dépassent le seuil de 25%, c'est le premier arrivé, bien évidemment, qui est élu. Mais simplement, si vous voulez, je voudrais juste encore une fois peut-être porter ou conforter, en tout cas, ce qu'on vient de dire, les uns et les autres, c'est que ces 25% étaient peut-être le maximum qu'on pouvait imaginer, ou 30% qu'on peut imaginer pour un tour où il y aurait 3, 4, 5 candidats. Il y a déjà 4 ou 5 candidats déclarés, même si on sait que parmi ces candidats déclarés, il y en a qui ont un petit peu, qui ont un petit peu plus que d'autres, et que à l'arrivée, on en trouve, disons, 2 ou 3 ou 4 maximum, ou 3 candidats véritablement significatifs. Vous voyez, je veux dire, si on prend, par exemple, l'élection... Pardon ?
Oui, moi, je vais m'adresser au politologue que vous êtes directement.
Oui, absolument.
Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui peut justifier cette innovation sénégalaise dans le contexte africain que nous connaissons actuellement de contestation systématique des résultats. Qu'est-ce qui pourrait justifier, je vous demande de faire l'avocat du diable actuellement,
oui, non, je
qu'est-ce qui pourrait justifier
faire...
cette innovation-là?
Mais je crois que c'est tout simplement la crainte qu'inspirait l'élection à venir à Abdoulaye Wade. Il savait qu'il était battu. Vous savez, il n'y a pas de mystère. Vous savez, nos chefs d'État croient toujours surfer sur une espèce de popularité que leur rapporte bien souvent leurs entourages. Hein. Or, dans la réalité, il n'en est rien. Et Wade, ma foi, on lui a sans doute fait remonter l'état de l'opinion sénégalaise, l'opinion publique sénégalaise, et notamment la défiance qui était de plus en plus exprimée par la majorité des Sénégalais. Vous voyez donc, d'abord la peur de ne pas bien évidemment être élu, la volonté finalement de se satisfaire d'un minimum en se disant je suis en place président sortant, s'il y a 3 ou 4 candidats, on va se partager les suffrages et peut-être que j'arriverai avec mon ticket en tête du premier tour. Vous voyez, je veux dire, 25-26%, c'est pour ça qu'il a été jusqu'à 25%, c'est terrible.
Est-ce que ce 25%-là, est-ce que ce n'est pas le cas de tous les pays africains, tous les pays qui bénéficient justement d'un scrutin à un tour? Parce qu'à un scrutin à un tour, il y a de très fortes chances que le premier dépasse 25%. Est-ce que ce n'est pas le cas de tous les pays francophones? On a vu que la RDC...
Mais pas de tous les pays. Tous les pays, en tout cas ceux n'ont pas adopté le tour unique. Je sais qu'on peut parler du Gabon. Regardez le Gabon. Ali Bongo a gagné avec je ne sais combien.
Il y a le Gabon, il y a le Cameroun, il y a la RDC qui veut...
Tout le monde sait que ce scrutin était, pardonnez-moi l'expression, tronqué. Totalement tronqué. Et il est évident que tous ceux qui, justement, ont instauré le tour unique, regardez le Togo, regardez ce qui est à venir, même dans d'autres pays...
La RDC qui va avoir des élections au mois de novembre, et aussi un tour, c'est ça?
Comment ?
La RDC aussi qui va avoir des élections en novembre.
Bien évidemment. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est que ce Abdoulaye Wade, qui se présente comme le Turiféraire de la démocratie, hein, le parangon de démocratie, on l'a vu à propos de la Côte d'Ivoire. Eh bien, Abdoulaye Wade s'est rendu compte, parce que il y a quand même eu un premier tour et un deuxième tour. Celui qui a été, dit-on, battu, selon les chiffres qui ont été, en tout cas, annoncés officiellement par les Nations Unies, avait quand même réalisé, à ma connaissance, 39% des suffrages exprimés, est allé donc au deuxième tour. C'est sans doute cette crainte du deuxième tour, justement, à la suite de ce qui s'est passé, notamment de tout ce qui a pu entourer ce fameux second tour, qu'Abdoulaye Wade, comme les autres chefs d'État, qui ne sont en rien démocrates, c'est pas parce qu'il y a des, pardonnez-moi l'expression, c'est pas parce qu'il y a des satrapes qui ont instauré, ou maintenu, ou en tout cas fortifié le scrutin unique, qu'il faut se ranger derrière. Le Sénégal a une histoire électorale. Le Sénégal a une histoire politique très vieille. Le Sénégal vote, pardonnez-moi de vouloir un petit peu spécifier ou singulariser le Sénégal, mais le Sénégal
vote... Non, c'est l'objet de...
Vote depuis plus d'un siècle, et il y a une tradition quand même électorale bien ancrée, et Wade lui-même a expérimenté les deux tours en 2000.
Absolument.
Il a eu 30 et quelques pourcents, et puis à partir de là, il a pu réunir au deuxième tour, avec des ralliements, obtenir bien évidemment la fameuse majorité de 56%.
Professeur Bourgi, Didier Auto, une question pour vous.
Oui, professeur, toujours parlant du car bloquant, je voudrais savoir s'il y a dans le monde un système juridique qu'il a déjà utilisé.
Bah, écoutez, à ma connaissance, franchement, je sais pas, peut-être qu'il y en a un chez les Lapons, en Laponie, j'en sais rien, mais à ma connaissance, sincèrement, dans des pays qui se réclament de la démocratie, c'est Wade qui, je vous dis encore une fois, vous savez, Abdoulaye Wade est un monsieur qui est d'une prétention invraisemblable. Il était le plus fort, le champion de la démocratie, le champion de l'alternance, le seul à avoir été élu, disait-il, au suffrage universel, je crois que c'était un sommet de l'Union africaine en 2002, il me semble, à Durban, ou en 2003 à Maputo, il avait quasiment pris à rebours tous les chefs d'État en leur disant « Vous êtes tous des mal élus, je suis le seul bien élu ». Oui. Et c'est ce monsieur qui a voulu faire comme les autres, c'est-à-dire ceux qui ont, pardonnez-moi l'expression, usurpé le système électoral, qui ont usurpé tout simplement les suffrages de leurs nationaux, de leurs concitoyens. Il a fait la même chose, il a tenté de faire la même chose, sauf que encore une fois, il a omis deux choses, me semble-t-il. Il a omis deux peut-être faits majeurs. Le premier fait majeur, c'est que ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe ailleurs ne peut pas nécessairement se passer au Sénégal à cause notamment de l'histoire de ce pays, et que d'autre part, la majorité aujourd'hui des Sénégalais sont foncièrement hostiles, en tout cas, au président en place, sans revenu du fameux champion du Sopi, vous savez, du changement. Oui. Le changement, les Sénégalais l'attendent depuis 11 ans. J'ai entendu tout à l'heure votre collègue dire, c'est vrai qu'il a bâti, il y a une route, vous savez, si vous avez été à Dakar, elle est belle, cette route de la Corniche. Mais si au bout de 11 ans, il faut se satisfaire d'une belle route de la Corniche pour dire que c'est un bâtisseur, franchement, il y a quand même un petit peu mieux à faire dans nos pays où le fossé, hélas, est toujours très, très, très large entre cette minorité de repus, pardonnez-moi, de privilégiés, une majorité qui s'enfonce de plus en plus dans la précarité morale et presque physique.
Oui, professeur, je voudrais savoir, pour sortir du volet juridique de cette affaire, je voudrais savoir quelles auraient été les conséquences si jamais ce texte de loi avait été adopté, notamment la fameuse motion de car bloquant l'élection dès le premier tour du ticket qui serait arrivé à 25%.
Oui, je vais vous dire une chose. Si le premier était arrivé à 21%.
Oui, à 25%.
Oui, à 25%. S'il était élu, s'il avait été élu de cette manière, le ticket Wade et compagnie, écoutez, je crois qu'il n'y aurait jamais... Je vais vous dire quelque chose. Connaissant un petit peu le Sénégal, moi, personnellement, j'étais convaincu que ce texte ne pourrait jamais passer.
Ouais. Justement, si vous le permettez, professeur Bourgi, on va peut-être regarder un petit peu les autres acteurs du volet politique. Je sens déjà Guy qui voulait rester un peu sur le volet constitutionnel, mais Guy, vous reviendrez. Okay. Professeur, structuré au sein de la coalition l'opposition Beno, Sigil, Sénégal, l'opposition politique qui a tout de même remporté la majorité des grandes villes aux dernières élections locales.
Bien sûr, aux élections locales de 2009.
Exactement. Oui. Cette opposition paraît néanmoins encore divisée dans la mesure où elle a, semble-t-il, en tout cas, de la difficulté à opposer un candidat à Abdoulaye Wade. Alors, est-ce que...
Oui, vous avez raison. Bon, c'est vrai que on n'en était pas encore à la désignation définitive. Il y a eu quand même des avancées. Hein. Juste rappeler quand même qu'il y a un peu plus d'un mois, un mois et demi, le principe de la candidature unique au sein de Beno Sigil Sénégal avait été quand même clairement arrêté. Clairement arrêté, même si les modalités de cette désignation du candidat unique n'avaient pas été définitivement fixées, on était en tout cas sur cette trajectoire. Donc il y avait un début en tout cas d'accord à l'évidence autour de cette candidature unique au sein de Beno Sénégal. C'est évident qu'il y a des rivalités, tant mieux, ce qui explique qu'il y ait une certaine diversité. Mais je pense franchement que les petites rivalités ou les petites tergiversations qu'il y avait au sein de Beno Sénégal, vont complètement disparaître avec ce qui vient de se passer. Vous savez, rien n'aurait été possible sans la dynamique unitaire qui s'est dégagée, vous savez, de ces fameuses assises nationales où il y avait non seulement les représentants des partis politiques et principalement ceux de Beno Sigil Sénégal, mais aussi les représentants de la société civile, et je crois que ça c'est nouveau. La société civile est extraordinairement active. Ça signifie que cette société civile va peser incontestablement sur le scrutin à venir, sur le scrutin de février 2002.
Justement, alors, à ce propos, Didier a une question pour vous, Didier.
Alors, je voudrais rester sur le volet politique pour vous demander comment est-ce que vous analysez la position, notamment celle des États-Unis, qui, à travers un communiqué publié mercredi par leur ambassade à Dakar au Sénégal, avaient exprimé leur vive inquiétude au sujet d'un texte aussi important qui, normalement, devrait faire l'objet d'un consensus. Comment expliquer cette position, à mon avis, assez tardive des USA?
Oui, assez tardive, mais enfin, elle est quand même arrivée. Hein. Vous savez, les rapports, vous savez, c'est dans nos pays, les chefs d'État, et en plus, Wade avait réussi, disons, à se donner une posture, entre guillemets, disons, reconnue à l'extérieur. Hein. Pardonnez-moi, pardonnez-moi l'expression, c'est une imposture.
On l'a vu à Deauville, d'ailleurs, on l'a vu à Deauville.
Il est allé à Benghazi faire le pan. Pardonnez-moi l'expression, uniquement pour faire plaisir à ses commanditaires extérieurs, et bien évidemment avec en tête ce qu'il allait sortir 8 jours après. Je ne sais pas si vous avez relevé simplement la concomitance entre ce voyage de ce monsieur qui était derrière Kadhafi pendant X années. Ouais. Vous savez, Kadhafi est allé à l'Assemblée nationale sénégalaise il y a 2 ans, il leur a dit aux députés, mais vous perdez votre temps, vous avez un président exceptionnel, il faut le désigner à vie. Alors donc il y est allé, il a fait ce fameux discours, il est le seul d'ailleurs, il me semble, de l'Union africaine à avoir fait ce voyage, et s'il l'a fait, c'est pour pouvoir en bénéficier de quelques retombées. Moi je mets tout ça, les États-Unis tardivement, la France à minima, etc. Tout ça, c'est je crois qu'il faut qu'on en arrive à un stade où finalement l'extérieur, ou ce qu'on appelle la communauté internationale, sache qu'il y a aussi des nationaux d'un pays qui peuvent...
Justement, professeur Bourget.
Du destin de leur pays. Et je pense qu'il y a là quand même une leçon extraordinaire.
Professeur.
Pardonnez-moi de le dire. Tous ceux qui ont adopté le tour unique, notamment quelques-uns de ces présidents qui ont été tous des mal élus, pour ne pas dire des élus sous le coup de la fraude, ceux-là doivent quand même un petit peu s'inquiéter de ce qui vient de se passer au Sénégal.
Alors, professeur,
au Sénégal, parce qu'à l'évidence, la sortie des Sénégalais, ce fameux jeudi, il y a 3 jours, cette sortie, elle est révélatrice un petit peu de l'état d'esprit aujourd'hui des sociétés africaines. Moi, je crois que petit à petit, vous savez, on va être gagné. J'aime pas trop dire mimétisme, printemps arabe, mais on n'est pas loin de là.
Alors,
on n'est pas loin de là, et vous savez,
oui,
avec les nouvelles technologies de la communication, moi j'ai dit toujours que c'est instauré peut-être progressivement, sans qu'on s'en rende compte, une forme de démocratie directe.
Professeur, je voulais rebondir, tout à l'heure vous avez parlé...
C'est plus réservé aux partis, aux chefs de parti, aux responsables de parti, elle est réservée quasiment, elle est aujourd'hui pénétrée par tous les blogueurs, par tous les
Albert Bourgi,
rappeurs, on l'a vu, tous ceux qui aujourd'hui s'informent tout simplement sur le net.
Sur le net. Alors Didier, encore une autre question. Ensuite
oui, alors tout à l'heure, le professeur Bourgi parlait de l'Occident, des États-Unis, de la France notamment. Je voudrais savoir si on ne peut pas dire aujourd'hui que ces puissances occidentales ont même pu encourager le président Ouad dans son idée suicidaire, quand on sait qu'au sommet de Deauville, il y a quelques semaines déjà, on a vu un Nicolas Sarkozy jouer pratiquement au courtier, au VRP de Ouad, en présentant Karim Ouad aux puissances occidentales, notamment au plus fort d'entre eux, le président Barack Obama. Oui. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas leur part de responsabilité dans cette histoire?
Oui, vous savez, peut-être, évidemment, moi je dirais que la part de responsabilité, je la situe à un niveau plus politique, pas au niveau de, comment dirais-je, pardonnez-moi de le dire, du dérisoire. Ouais. On l'a vu d'ailleurs, vous avez vu la tête d'Obama.
Oui, il a l'air surpris.
Surpris de voir ce bonhomme arriver et l'autre au courtier. Vous savez, je vais vous dire une chose, les puissances occidentales n'ont que des intérêts.
Ouais.
Elles sont cyniques. Quand elles voient que leurs intérêts ne pourraient plus être défendus par un tel, elles le lâchent purement et simplement. Et je suis pas sûr que qu'ils n'aient pas mesuré eux-mêmes hein, un petit peu ce qui se passe. Je vous signale simplement que les rapports entre les États-Unis et Ouad s'étaient dégradés ces derniers mois. Hein, s'étaient dégradés et que la représentante des États-Unis a fait quelques petites sorties. Vous savez, depuis l'affaire de ce fonctionnaire du Fonds monétaire international qui était parti avec une mallette d'argent qui était sorti du palais pour prendre l'avion et qui s'est fait rattraper à Madrid. Ouais. Je crois que cette affaire-là a montré un petit peu quelle était la nature quand même du personnage qui était à la tête de l'État sénégalais.
Albert Bourgi, Guy Epassi a des questions pour vous.
Mais professeur Bourgi, vous avez parlé des intérêts des pays occidentaux. Parlons des intérêts, de l'intérêt des pays africains, de la politique africaine. Lorsqu'on sait qu'actuellement en Afrique, on ne va pas se cacher, le vote est majoritairement ou largement régional ou ethnique, très peu votent en fonction de leur philosophie politique ou de leur appartenance idéologique. On sait qu'en général, le gros de la population vote par appartenance régionale ou tribale. Est-ce que un scrutin à deux tours ne cristallise pas, ou bien ne cristallise pas ces frustrations tribales et régionales lorsqu'on sait que, je prends l'exemple du Sénégal, où la population est composée, je pense, à 43% de Wolof, 13% de Sérère et des Peuls. Oui. Donc, est-ce que lorsqu'un Peul va se présenter au second tour contre un Wolof, par exemple. Est-ce qu'on n'assistera pas à une cristallisation de toutes les ethnies qui ne veulent pas les Wolof, au pouvoir? C'est ce qui se passe en général en Afrique. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là où on a vu le vote baoulé, entre guillemets, le vote baoulé a mis Ouattara au pouvoir. Ok. Donc, est-ce qu'un scrutin à un tour ne permet pas d'éviter cette tribalisation du vote?
Je crois que
professeur, allez-y.
Un vote à un tour cristalliserait davantage, cher ami. Parce que le serait élu directement sans une alliance. Parce que pour le deuxième tour, il doit nécessairement, vous venez de le dire, une alliance entre deux communautés. Or, au premier tour, une majorité de 25-30%, je vous le dis tout à l'heure, de Baoulé, de Dioula pour la Côte d'Ivoire, de Wolof pour le Sénégal, suffirait à faire élire. Non, je crois que la cristallisation serait encore plus aiguë, véritablement plus vive, s'il n'y avait qu'une élection au premier tour. Les deux tours permettent quand même, d'une certaine manière, de trouver un terrain de compromis politique entre les différentes communautés. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne méconnais pas du tout cette donnée ou ce fait ethnique. Hein, le fait ethnique procède de l'histoire du Sénégal, de l'histoire de l'Afrique, pardon. Mais sachez simplement qu'il faut pas aussi le sublimer, le surdéterminer. Le surdéterminé, vous savez, les revenants, puisque vous parlez même de la Côte d'Ivoire, vous pensez que, vous savez, le vote ethnique, même si on prend les chiffres de Ban Ki-moon ou de son représentant, les 46%, 46,5% de Gbagbo ne représentent pas les BT, on nous dit que les BT sont 18%. il a bien fallu que d'autres communautés s'agrègent au vote BT pour lui donner au moins 46%.
Mais les 46% des suffrages exprimés représentent peut-être les 16% de BT.
Peut-être, on ne peut pas à la fois, pardonnez-moi, on ne peut pas à la fois dire la légitimité elle est donnée par le suffrage universel et dans le même temps dire comment peut-on accommoder ce suffrage universel à un certain nombre de réalités peut-être ethno-centristes, pourquoi pas. Moi sincèrement, j'ai tendance à dire, bien évidemment, ce sont des réalités, ce sont des faits sont l'expression de l'histoire de nos sociétés africaines, c'est évident, mais pour autant, je pense pas personnellement qu'il faille, s'en tenir à ces réalités ethno-communautaires pour pouvoir forger une nouvelle forme politique, une nouvelle forme de démocratie. C'est mon opinion.
D'accord. Oui. Est-ce que je pourrais, il y a une question qui m'a échappé tout à l'heure, je vais revenir sur le volet constitutionnel de cette élection. On a justement fustigé le fait que cette modification constitutionnelle permette au président de choisir son successeur, le vice-président. On sait que en 2007, la constitution a été modifiée pour permettre au Sénat, justement au président du Sénat, d'assurer l'intérim en cas de démission ou de décès du président. Or, ce Sénat au Sénégal est nommé à 65% par le président de la République.
Il y a une autre révision, je vous arrête tout de suite, qui a fait maintenant, non pas du président du Sénat, mais du président de l'Assemblée nationale, le successeur constitutionnel.
Okay.
Juste, c'est pas parce qu'il était beaucoup plus seul, encore une fois je reviens, pardonnez-moi, on ne peut pas ignorer la personnalité de M. Wade. M. Wade s'est rendu compte que le président du Sénat n'était pas suffisamment fiable, et il a changé de personnage. Il a choisi à un moment, d'ailleurs très vite arrivé, choisi que ce serait le président de l'Assemblée nationale qui le considérait comme beaucoup plus fiable. Encore une fois, ce sont des petits calculs et qui ne relèvent pas du tout du statut du chef de l'État. Je le disais tout à l'heure, c'est quand même lui qui doit faire en sorte que ses institutions soient stables.
Il en est le garant, effectivement.
Et oui, je l'ai dit tout à l'heure, le garant du bon fonctionnement et de la stabilité des institutions. Or, Wade, je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de révisions, petites et grandes, qu'il a opérées pendant ces 10 ans. Vous savez, la stabilité institutionnelle, elle se réduit pas simplement à l'instabilité constitutionnelle, elle se réduit à l'instabilité gouvernementale. Vous savez on ne sait plus combien il y a de gouvernements.
Il y a deux premiers ministres, on les compte.
Les ministres sont nommés à 2 heures de l'après-midi, ils sont révoqués à 4 heures, et il y a un autre communiqué qui sort à 19 heures pour dire qu'ils sont rétablis dans leurs fonctions. On est dans une espèce de confusion institutionnelle invraisemblable.
Une dernière question sur le volet politique de Didier.
Alors, Professeur Bourgi, ma question est relative à l'avenir politique du super ministre Karim Wade. On sait déjà qu'il avait perdu les élections locales, mais malgré tout, son père de président avait pu le propulser à la tête d'un ministère qui ressemble à un véritable mammouth. Alors aujourd'hui, cette révision constitutionnelle n'est pas passée, quel peut être l'avenir de Karim Wade sur la scène politique sénégalaise?
Vous savez, il n'a pas qu'un seul ministère mammouth, comme vous dites, il en a 4. À lui seul, je crois, vous savez, ça fait penser, vous êtes plus jeune que moi, ça fait penser, il y avait un président qui s'appelait Kamuzu Banda. Ouais. Kamuzu Banda, c'était au Malawi, je crois. Ouais. Il avait une fois procédé à un remaniement, il s'était octroyé 17 ministères. Vous savez, on allait y arriver sans doute à un moment ou un autre, entre le fils, le neveu et le cousin. Mais franchement, Karim Wade n'occupe un espace politique ou n'a une place politique que parce que son père est président. Quand son père va partir, et il ne sera pas candidat, sa candidature ne sera pas validée. Elle est invalide, elle n'est pas fondée sur le plan du droit. Ben, il partira à ce moment-là, il partira comme il est venu. Sans sache d'où il vient. Voilà, sinon qu'il était le fils biologique du chef de l'État.
Alors, Idrissa Seck, Moustapha Niass, Macky Sall, peut-on penser aujourd'hui que véritablement, ou encore Abdoulaye Bachili, on va assister à une communion des forces pour qu'on puisse aboutir à un type de coalition comme le SOPI de 2000 qui avait porté Abdoulaye Wade au pouvoir, quand on sait qu'aujourd'hui, toutes ces personnes sont de véritables poids lourds de la scène politique sénégalaise.
Oui, vous avez raison de parler du SOPI. Le SOPI avait réuni 32% au premier tour, hein, en 2000. Et le SOPI est devenu, je crois, le front, le FAL, F-A-L, le front, hein, bien évidemment, avec le ralliement au deuxième tour, le ralliement à Ouad de Moustapha Niasse, hein, qui avait, je crois, récolté 17%. Ça y est, une coalition au deuxième tour qui a gagné. Donc, je pense que vous avez cité des noms, là, certainement, ce sont des peut-être des candidats potentiels, certains d'entre eux se présenteront sur leur seule bannière, sous leur propre bannière, hein, je pense à Macky Sall, même s'il est à Benno, il est en marge de Benno, mais je crois que il y aura différents candidats, mais que Benno Séguéla, le Sénégal, désignera un candidat, en tout cas unique, me semble-t-il. On va vers une candidature unique. S'il n'y a pas de candidature unique, eh bien le deuxième tour, il y aura nécessairement, s'il y a une multiplicité de candidatures, un deuxième tour départagera sans doute tout cela. Et eh bien, c'est le vote du second tour qui déterminera l'heureux élu, en tout cas celui qui sera le quatrième président de la République du Sénégal.
Professeur Bourgie, donc si vous permettez, on va passer à un dernier volet. Hein, on l'a un petit peu évoqué. Des milliers de Sénégalais, hein, ont manifesté jeudi 23 juin pour protester justement contre cette tentative de réforme constitutionnelle. Certains disent qu'on a une sorte de structuration, pardon, des mouvements citoyens, avec entre autres, hein, le mouvement Yanamar, qui s'était d'ailleurs déjà manifesté de façon très très intéressante, oui. À Dakar, au sommet, au forum social mondial, exactement.
Au forum social.
Tout à fait.
Oui.
Alors, professeur, quel rôle peut jouer la société civile sénégalaise, et quel est son poids, quel poids peut-il imposer sur les événements politiques des prochains mois, entre autres les élections de 2012.
Moi, je crois que la société civile va jouer un rôle très très important. La sphère politique a complètement changé, avec l'irruption notamment de cette société civile à travers tous les réseaux sociaux, à travers les différents mouvements associatifs. C'est évident. Quand je dis candidat de Benno Séguéla Sénégal, ça sera un candidat des partis. Il y aura peut-être un candidat. Il y a déjà des candidats indépendants, hein, l'ancien ministre des Affaires étrangères Ibrahim Affal, il y a l'ancien ministre des Affaires étrangères Gadio, il y a déjà deux candidatures qui ont été annoncées. À mon avis, Benno Séguéla Sénégal se référera à l'instance beaucoup plus large qu'auront été les assises nationales. Je vous rappelle que les assises nationales ont été tenues, ont rassemblé les partis politiques, les forces politiques qui sont comprises dans les formations politiques, mais aussi les membres de la société civile, nombreux mouvements associatifs. Il y aura sans aucun doute une concertation. Je crois que même le candidat des partis sera d'une certaine façon, désigné de fait également par certains représentants des mouvements associatifs. Est-ce qu'il y aura un candidat, qui émergera, un seul candidat qui serait le représentant de la société civile? Pourquoi pas? À ce moment-là, on mesurera justement le niveau d'influence électorale et politique des représentants de la société civile. Une élection présidentielle reste quand même un moment, bien sûr important. Une élection présidentielle suppose toujours, à mes yeux en tout cas, pour moi, me semble-t-il, un appareil de parti, vous voyez ? Un appareil de parti, des moyens. Et pour le moment, c'est vrai que c'est les partis qui semblent être, les mieux dotés, hein, dans la matière. Mais on peut très bien imaginer que, qu'un parti ou que plusieurs partis qui ne seraient pas regroupés dans Benno ou qui se dissocieraient de Benno, choisissent un représentant de la société civile. Pourquoi pas? Moi, à mes yeux, les jeux sont ouverts, même si, encore une fois, je crois que la nature même d'une élection aussi vaste qu'une élection présidentielle présuppose, en tout cas, que le candidat le mieux placé ou les candidats les mieux placés sont ceux qui émaneraient, en tout cas, des partis politiques les plus significatifs.
D'accord. Alors, Guy Epassi, vous interrogez.
Oui, professeur Bourgie, analysons.
Comment?
Professeur Bourgie, monsieur Epassi, Guy Epassi, analysons un peu cette manifestation de jeudi dernier. Qui est derrière les manifestants, ou bien qui sont derrière les manifestants? Est-ce que c'est un groupe manipulé par l'organisation? Est-ce que c'est un groupe spontané de jeunes politiquement émancipés? Est-ce que derrière le groupe, il y en a marre, il y a certaines personnes qui tirent les ficelles?
Non, non. Je crois que les deux, mon cher, hein, les mouvements, vous savez, tous ces mouvements, ces mouvements populaires, sont par définition des mouvements spontanés. Ils peuvent être accompagnés par les partis politiques. Vous savez, comme moi, qu'il y a des hommes politiques qui ont purement et simplement appelé à l'insurrection populaire.
Okay, mais
jamais, moi, je n'ai entendu le Parti Socialiste, un parti quand même historique, hein, le Parti Socialiste Sénégalais, son secrétaire général a appelé, son premier secrétaire a appelé à l'insurrection populaire. Donc, je crois qu'il personne n'est manipulé.
Mais on n'imagine pas... Professeur Bourgier, on n'imagine pas 10 000 jeunes subitement qui sortent chacun de leur maison subitement et manifester, converger
non,
unanimement.
Attendez, quelle manipulation? On ne manipule plus les gens aujourd'hui. On peut manipuler 500 types, on peut manipuler 300 types, on peut, je sais pas, comment dirais-je, lever des espèces de groupes, leur donner un peu de fric pour qu'ils descendent dans la rue.
Oui,
mais vous croyez qu'on manipule les gens,
c'est
un peu le Sénégal, je pense, si vous le connaissez, sincèrement, la population est exaspérée par la situation sociale, les délestages. Vous avez peut-être suivi ces dernières semaines, ces derniers mois, tous les soirs depuis plusieurs mois, il y a des groupes qui se réunissent, qui protestent, qui mettent le feu à n'importe quoi, des pneus ou je ne sais quoi, pour justement s'élever ou contre protester tout simplement contre les coupures d'électricité. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Il y a tout ça, ça a contribué, si vous voulez, à exacerber un petit peu les frustrations. Il y a des frustrations, et vous savez très bien, malheureusement, que ces frustrations conduisent parfois à des mouvements. Qui est suivi sous la houlette des partis politiques ou sous la directive des partis politiques,
voilà,
qui ont appelé à descendre dans la rue.
Exactement, c'est ce que je voulais entendre.
L'ampleur de ces manifestations a montré qu'il y en avait d'autres, finalement, qui étaient venus parce qu'ils étaient suffisamment exaspérés pour venir exprimer justement leur défiance à l'égard du pouvoir.
Vous avez dit directive de l'opposition, hein, des partis politiques. Vous avez utilisé le terme directive de l'opposition. C'est ça que je voulais comprendre. Parce que on assiste de plus en plus à des manifestations qu'on dit spontanées. Moi, personnellement, je ne suis pas sociologue, mais j'ai du mal à croire que 10 000 personnes, oui, 10 000 jeunes n'ayant rien à faire chez eux, subitement se retrouvent dans la rue à converger. Est-ce qu'il n'y a pas des instructions?
J'ai parlé de directive parce que, j'ai dit directive, l'appel. C'est pas compliqué, l'appel des partis a été un appel public.
Ouais. Alors, professeur.
Cacher.
Oui, professeur, je
c'est
voudrais.
Didier.
Oui, c'est Didier, je voudrais vous dire, dire à nos auditeurs que depuis ce samedi, le mouvement de jeudi dernier a donné naissance à ce que l'on a appelé le mouvement du 23 juin.
Du 23 juin.
Oui, qui réunit à la fois la société civile et les partis de l'opposition. Et Abdoulaye Bachili dit qu'aujourd'hui, qui est le porte-parole de ce nouveau cadre d'action, dit qu'aujourd'hui pour lui, il s'agit d'obtenir du président Ouad qu'il puisse annoncer officiellement qu'il ne sera pas candidat. Pensez-vous qu'il puisse le faire?
À mon avis, il sera obligé de le faire.
Comment ça?
Il est obligé parce qu'aujourd'hui, la défiance, elle est totale. Et lui-même sait que sa candidature n'est pas fondée en droit. Il ne s'agit pas d'obliger quelqu'un à ne pas être candidat, il s'agit de faire comprendre à ce monsieur que juridiquement, d'après les textes constitutionnels, sa candidature n'est pas acceptable sur le plan du droit.
Et pensez-vous pensez-vous que la rue sénégalaise, parce qu'Abdoulaye Bachili poursuit son propos en disant que la contestation va se poursuivre, ils veulent même obtenir la tête d'Abdoulaye, je veux dire de Karim Ouad, parce qu'ils disent qu'il y a un amalgame entre la gestion de l'État et les questions familiales. Il s'agit donc de savoir, pour ma part aujourd'hui, pensez-vous que la population sénégalaise va rester mobilisée pour obtenir le départ de Ouad père et fils?
Écoutez, pour le moment, ce qu'on peut noter, c'est une mobilisation, franchement, comme il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire politique sénégalaise. Il n'y en a pas eu beaucoup. Je crois que c'est même une... Elle est historique, cette mobilisation. Tout peut arriver. Moi, je crois, personnellement, je suis un légaliste, parce que même si on proteste, on est quelquefois un prof de droit attaché au droit,
évidemment.
Sauf qu'en l'espèce, le droit a été bafoué. Alors, il a été tellement bafoué et piétiné qu'on en arrive à se dire, est-ce qu'il faut encore toujours brandir le droit? Je dis oui, il faut toujours se mettre sous la bannière de l'état de droit. Le terme du mandat, je crois que c'est fin janvier, début février, enfin l'élection a lieu le 26 février, je crois le premier tour. Bon, il appartiendra aux Sénégalais de décider, mais Abdoulaye Bathily, qui est lui-même un démocrate que tout le monde connaît, il s'est présenté plusieurs fois, il s'est soumis au suffrage universel, donc il sait très bien que par où doit passer nécessairement une élection à la présidence de la République, c'est-à-dire par le vote tout simplement des citoyens. Donc bon, vous savez, il peut, vous savez, regardez ce qui s'est passé en Tunisie, regardez ce qui s'est passé en Égypte. Bon, je sais pas, vous n'allez pas faire du Sénégal un cas exceptionnel en disant que les gens sont dans la rue parce qu'on leur a dit de descendre dans la rue. Vous savez, les gens ne se laissent pas tous manipuler.
Justement, professeur Bourgi,
je crois que, franchement, ôtez ça de votre esprit. J'ai l'impression que comme c'est en Afrique subsaharienne, ils sont manipulés. Ben, les gens sont devenus de plus en plus citoyens.
Justement, professeur Bourgi, je vais
largement favorisé justement par la nouvelle communication ou les nouvelles technologies de la communication, bah c'est évident.
Albert Bourgi, justement, je vais rebondir un peu sur vos derniers propos. Je vais rebondir sur les derniers propos que vous venez de tenir. Vous dites que vous avez quelque part mentionné que Watt connaît trop l'histoire du Sénégal pour tenter de la jouer un petit peu, ce qu'on a fait au Togo ou encore
au Gabon,
voilà, merci. Au Congo aussi, on l'a fait.
Djibouti n'est pas un État, c'est une, je sais pas quoi. Bon, bref.
Oui. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité sénégalaise?
Mais vous savez très bien, je dis pas, vous savez, je dirais pas qu'il y a une exception sénégalaise, mais il y a une histoire politique, vous le savez comme moi, sénégalaise, qui remonte très haut, et même à l'époque coloniale, hein, vous savez, je ne veux pas revenir un petit peu sur ces divisions qu'avait érigé, ces espèces de barrières qu'avait érigé le colonisateur, hein, citoyens et sujets, les citoyens, c'était Dakar, Saint-Louis, Rufisque et Gorée, hein, tant que je me souvienne, mais sachez simplement que le député, vous en souvenez sans doute, après, pendant la Première Guerre mondiale, le député Blaise Diagne a été élu, il a été même sous-secrétaire d'État, même si c'était à l'époque pour qu'il puisse mobiliser justement les Africains pour venir renflouer en quelque sorte des effectifs sur le front, effectifs français. Simplement, vous rappelez que, par exemple, c'est un métis sénégalais qui avait battu le représentant de la bourgeoisie française en Afrique, qui était personne d'autre que le père de Gaston Defer, Paul Defer. Je crois que c'était en 26, oui. Donc, Carpeau avait battu Paul Defer. Donc, l'histoire sénégalaise, elle est parsemée de scrutins, d'adversités électorales. Lamine Gueye-Senghor, ça a été le cas à l'élection, aux élections législatives de 51, le cas à l'élection, aux élections législatives de 56. Vous voyez, donc, il y a une histoire électorale, il y a des compétitions électorales qui jalonnent, qui ont parsemé qui ont parsemé, comment dirais-je, la route du politique, en tout cas au Sénégal. Peut-être davantage, pour des raisons là aussi historiques, sur lesquelles on ne peut pas malheureusement trop s'étendre, par rapport bien évidemment à d'autres États d'Afrique subsaharienne.
Tout à fait, d'accord. Alors il y a Guy et Passy qui a encore une ou deux questions pour vous, ensuite
une dernière peut-être.
Ah oui, d'accord, alors une dernière pour Guy, et puis moi j'en ai toute une dernière, on va faire ça très rapidement.
D'accord. Pour ça, Bourgi, je vais savoir, vous avez dit tout à l'heure que le président Wade ne devrait plus se présenter pour le scrutin présidentiel. Est-ce qu'il est frappé, selon vous, d'inéligibilité?
Oui, il est frappé d'inéligibilité sur le plan du droit. C'est évident. C'est évident. Il a été élu sous l'égide d'une constitution qui disait que les mandats étaient limités à deux. Donc il a été élu, il a même été élu pour 7 ans, et il était censé donc faire que 2 mandats. Et le voilà, parce que c'était dans l'air du temps, en 2000, il est élu, en 2001, il dit « Moi je suis un grand démocrate, je vais ramener le mandat à 5 ans, et bien évidemment maintenir les 2 mandats ». C'est-à-dire qu'élu, un an après, il dit « Oui, mais j'ai été élu sous l'égide d'une autre constitution. Je l'ai modifiée en janvier 2001. Et elle prévoit là aussi que 5 ans et 2 mandats. Donc j'ai droit aux 7, 5 et plus 5. Donc c'est juridiquement infondé. C'est pas qu'il est frappé de, comment dirais-je, frappé de d'incapacité de se présenter. Il est juridiquement infondé pour se présenter à cette élection présidentielle. C'est le droit qui parle. C'est le droit constitutionnel, tout simplement. Je vous assure que si vous regardez un peu l'histoire politique et le droit lui-même, le droit constitutionnel lui-même, et what c'est pertinemment, et je me demande si cette espèce de passage en force n'était pas justement lié un petit peu à cette incapacité juridique qu'il avait à se présenter à l'élection présidentielle.
Une toute dernière question, si vous le permettez, professeur Bourgis, c'est Didier.
Alors, professeur, vous parliez d'incapacité juridique tout à l'heure. Le débat est en cours, vous êtes un grand connaisseur de l'Afrique. Le débat est en cours au Cameroun, où oui. L'élection aura lieu au mois d'octobre, probablement, oui. Comme vous le savez.
Oui. Absolument.
Le président Biya peut-il être candidat aujourd'hui? Vous êtes sûrement au courant du débat. Et si oui, pensez-vous qu'il puisse apporter quelque chose? Je demande si le débat sur l'inéligibilité constitutionnelle du président Biya, comme vous parliez tout à l'heure du président Wade, c'est pratiquement le même schéma. Oui. Est en cours aujourd'hui au Cameroun. Alors, pensez-vous que le président Biya puisse être rééligible aujourd'hui? Et pensez-vous qu'il puisse proposer... Oui, allô?
Allô?
Oui?
J'entends plus, décidément. C'est...
Allô?
La ligne est... Elle a dit... Écoutez, si j'ai bien compris, vous me posez la question de savoir si Biya était fondé juridiquement.
Effectivement.
Je dois vous avouer, franchement, que je connais moins bien, je la connais, la constitution camerounaise, mais beaucoup moins bien que la constitution sénégalaise. Mais à ma connaissance, en tout cas, la candidature d'un Biya me paraît être limite sur le plan du droit. Limite sur le plan du droit, vous savez, moi vous le savez sans doute, des amis et des collègues camerounais qui sont parmi les meilleurs juristes africains. Je le dis pas parce que vous me posez la question sur le Cameroun, et ce qu'ils ont dit pour certains d'entre eux me paraît être fondé, et le débat, me semble-t-il, aujourd'hui, va tourner aussi bien sur le problème de sa candidature, on n'en est pas là, mais ça risque de provoquer, me semble-t-il, pas mal de remous, et puis sur le plan, surtout, de la régularité du scrutin. C'est-à-dire que les gens sont focalisés aujourd'hui sur la régularité du scrutin, non sans raison, mais je pense également, sur le plan du droit, je ne crois pas du tout que ce soit véritablement fondé en tant que... Mais je laisse le soin à mes amis, à mes collègues camerounais pour se prononcer de manière définitive. Je suis un juriste, je me sens plus à même et plus qualifié pour me prononcer sur la non-candidature sur le plan du droit de bien évidemment, de WAD, que... Bien évidemment, par rapport au Cameroun et aux Camerounais qui sont même de très très bons juristes et qui ont émis pour certains d'entre eux déjà un point de vue qui est très clair là-dessus.
Alors, professeur Albert Bourgis, c'est le temps de vous remercier infiniment de nous avoir accordé.
Merci en tout cas, ça m'a donné l'occasion de m'exprimer. Je connaissais votre radio, vous voyez, donc il y a des choses qu'on connaît. Ça, c'est l'avantage aujourd'hui de l'informatique, le net. Hein. On connaît tout le monde sans se connaître. Hein.
Exactement. En tout cas, pour nous, ce fut un plaisir. Je suis certain que nos auditeurs vont certainement être beaucoup mieux éclairés sur la situation de la Côte d'Ivoire.
Merci en tout cas de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer.
Sénégal, excusez-moi, oui, j'ai dit la Côte d'Ivoire tellement.
Oui,
on m'a rappelé ici.
La Côte d'Ivoire, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais d'autres l'ont dit. Et bon, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut espérer que le droit également ne soit pas bafoué dans ce pays, parce que c'est, paraît-il, au nom du droit qu'on a érigé un certain nombre de règles. Bon, voilà.
Voilà.
Laissez-moi. Alors, donc, en tout cas, sur cette note optimiste, que, au fond, ce qu'il faut savoir, je crois que, et ce qui me paraît être intéressant et in fine le dire, je voudrais in fine le dire, c'est que ce qui se passe au Sénégal est extrêmement important pour tous nos pays d'Afrique. Parce que quelque part, vous savez, le Sénégal, je ne dis pas que, vous savez, il y a toujours ce complexe, au Sénégal, ils se prennent pour les meilleurs constitutionnalistes, les champions de la démocratie, sont loin d'être les champions de la démocratie, mais je pense que ce qui se passe au Sénégal est important, parce que c'est une espèce de boussole qui nous montre bien que les choses ne seront plus jamais comme avant. Et mon cher ami qui m'interrogeait sur le Cameroun, si Biya croit pouvoir rouler les Camerounais comme il l'a fait au cours des scrutins précédents, il se trompe lourdement.
Alors c'est sur ces derniers mots, professeur Bourgis, encore une fois au nom de Guy Epassi et de Didier Ibioto, merci.
Merci à vous de m'avoir appelé et de m'avoir demandé d'intervenir. Allez, bonne fin de journée.
Au revoir. Ciao. Au revoir.